C'est un petit peu extrinsèque, mais on verra après. Est-ce que l'intelligence humaine peut dire Dieu est amour? Aristote dit qu'il est la contemplation de la contemplation. Nous le verrons. Quelles sont les critiques qui ont été adressées aux cinq voies de saint Thomas dans l'histoire de la philosophie? N'y aurait-il pas eu essentiellement un oubli des cinq voies ou leur ignorance, comme c'est le cas chez Kant, dans sa critique des preuves de l'existence de Dieu? Vous regarderez ça, vous verrez là progressivement, parce que je n'ai pas le temps de faire, hélas, tout l'aspect historique. Ce serait intéressant, je ne peux prendre que quelques aspects. C'est évidemment Kant qu'on considère comme la grosse artillerie contre les cinq voies. En réalité, Kant ne les a pas connues, mais c'est considéré comme la grosse artillerie. Vous pourriez regarder, alors ça, ce serait intéressant, de regarder chez Occam, de voir comment les cinq voies glissent. Il ne les critique pas, mais les interprète. Et c'est cette interprétation des cinq voies qui ont été ensuite communiquées. Pratiquement, ce que j'essaie de voir avec vous, j'essaie de remonter à la source, de comprendre les cinq voies comme il me semble, c'est une interprétation que je vous donne, mais comme il me semble qu'on doit les comprendre si on se place dans une perspective théologique. Ce qu'on n'a pas fait, ça, il faut le dire, on n'a pas fait, on a vu tout simplement, et c'est net, Descartes à la suite dit « preuve de l'existence de Dieu ». C'est clair. On a considéré les cinq voies de saint Thomas comme preuve de l'existence de Dieu, alors que ce n'est pas du tout le point de vue de saint Thomas. C'est un point de vue très différent. C'est d'essayer de comprendre comment l'intelligence humaine peut par elle-même remonter jusqu'à Dieu. Et c'est beaucoup plus un aspect critique, de réflexion critique, qui implique un aspect métaphysique. Je suis tout à fait d'accord. Un aspect métaphysique est présent, ce que nous allons voir maintenant. Mais ce n'est pas directement une philosophie que saint Thomas construit. Saint Thomas n'a pas fait de philosophie pour elle-même. Au Moyen-Âge, ça ne se concevait pas. Vous voyez, dans le Contra Gentiles, qu'est-ce que fait saint Thomas? Il montre ce que l'intelligence humaine est capable d'atteindre. Il ne fait pas une philosophie. Le Contra Gentiles n'est pas une philosophie. C'est beaucoup plus un aspect critique, voir ce que l'intelligence est capable de comprendre. Jusqu'où l'intelligence humaine peut aller. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même attitude. C'est à l'intérieur d'un climat de chrétienté, on essaie de comprendre ce que l'intelligence humaine est capable d'atteindre. Et ce que la foi apporte de nouveau. Alors il y a la double considération, la considération de l'intelligence, ce que l'intelligence humaine peut atteindre, et ce que la foi apporte en plus. Et je crois que c'est constamment les deux. Oui. Et c'est ça qui fait comprendre le Contra Gentiles, à ce point de vue-là. Lisez, un jour où vous avez quelques minutes, lisez le début du Contra Gentiles. Il faut lire le Contra Gentiles au moins, pas entièrement, mais l'avoir un tout petit peu regardé. C'est un très très beau livre. Si on avait le temps, on lirait pour se préparer à la Pentecôte ce que saint Thomas nous dit dans le Contra Gentiles sur le Saint-Esprit. C'est une des plus belles choses qui ont été dites sur le Saint-Esprit. Dans le Contra Gentiles. Pas dans la Somme. Mais dans le Contra Gentiles. C'est beaucoup, ça a une espèce d'ampleur très extraordinaire avec les grands textes de l'Écriture. C'est très beau. On peut très bien se préparer à la Pentecôte en lisant ce que saint Thomas nous dit dans le Contra Gentiles sur le Saint-Esprit. C'est une des très belles choses qui ont été écrites sur le Saint-Esprit. Mais, alors, faites-le. Évidemment, il n'y a qu'un seul, là, attention, bibliothécaire, multipliez les Contra Gentiles avec saint Thomas, ça coûte cher, hélas. Mais c'est pour ça que je ne regarde pas tous ceux qui ont critiqué, je dirais Kant, c'est suffisant. Parce qu'avec Kant, vous avez pratiquement comment de saint Thomas on a glissé vers un ontologisme. Et c'est cet ontologisme que Kant critique. Bon, alors je vous disais la dernière fois, un petit peu un regard synthétique que nous allons prendre sur la manière dont saint Thomas voit les cinq voies. parce que c'est important de saisir ça. Je vous disais donc, le point de départ, facile à comprendre. L'expérience du mouvement, l'expérience de l'ordre. Pratiquement deux. Mais l'expérience du mouvement de ce qui est mu, l'expérience de ce qui est ordonné. C'est toujours l'expérience d'une réalité existante. Donc ça, c'est très net. Deuxièmement, pouvons-nous, alors je pose le problème, parce que c'est intéressant au point de vue critique, pouvons-nous découvrir à partir des cinq voies, des cinq points de départ de saint Thomas, la récapitulation de toute la philosophie? Oui, c'est une hypothèse de recherche. Saint Thomas présente les cinq voies vraiment comme une espèce de grande synthèse. C'est évident. Comme Aristote dit, induction analogique synthétique, je dirais démonstration a posteriori analogique synthétique de l'existence de l'être de Dieu. Saint Thomas ne le dit pas, mais j'interprète comme ça. Eh bien, je vois qu'au point de départ, première voie, philosophie de la nature. C'est net, ça, tout le monde est d'accord. Deuxième point de départ, philosophie du vivant. Alors, on n'en parle pas, c'est pour ça que tout le monde est d'accord. N'est-ce pas? Puisqu'on n'en parle pas. Philosophie du vivant, le point de départ. Puisque une des grandes expériences du vivant, c'est il se meut. Donc c'est l'ordre des causes efficientes. C'est évident, il se meut. C'est l'ordre des causes efficientes. Donc c'est bien la philosophie du vivant. Troisième point de départ, philosophie première, ça aussi c'est assez facile à comprendre puisque c'est le possible vers l'essai et le non-essai. Alors je ne dis pas que c'est le point de départ de la philosophie première, mais c'est la philosophie première qui est immédiatement engagée, vous voyez. C'est un peu le jugement d'existence, ceci est. Et en même temps de voir que ceci est implique une possibilité de non-être, toutes les réalités que vous expérimentez impliquent une possibilité de ne pas exister. Donc c'est un point de départ très important et intéressant. Quatrième point de départ. Alors, le plus et le moins dans l'ordre des qualités. Est-ce que ce n'est pas la philosophie de l'art? Est-ce que ce n'est pas l'expérience artistique qui nous donne le plus le sens de la qualité et du plus et du moins? Alors, dernière, éthique. C'est intéressant de se poser la question. Hein. Faisons-le avec intelligence. Il ne faut pas le faire d'une façon brutale, ça n'aurait pas de sens. Mais d'une façon intelligente, je crois que saint Thomas, là, se sert pratiquement de toutes les parties de la philosophie. Ici, c'est assez net, philosophie spéculative. Philosophie pratique, c'est un petit peu plus difficile, mais je crois qu'on peut mettre philosophie de l'art et peut-être aussi la critique. Le plus ou moins vrai, vous voyez. Il y a les deux. Il y a un mélange des deux. Puis alors là, l'éthique, c'est sûr, c'est l'amour. Alors on dira, ah non, c'est pas l'éthique, c'est l'éthique, en ce sens que c'est la physique, la nature ordonnée, la réalité qui n'implique pas de connaissance. En éthique, il y a toujours la connaissance. C'est sûr. Mais c'est quand même en éthique que je découvre le mieux le point de vue de la finalité. Alors, c'est la finalité à l'état pur, la cinquième voie. Et on cherche le fondement de la finalité à l'état pur. C'est la nature ordonnée vers une fin. Alors, il me semble qu'on peut dire ça, vous voyez, qu'on peut dire que toutes les parties de la philosophie sont mobilisées. Bon, ça me donne, par rapport aux cinq voies, quelque chose d'intéressant, parce que ça me montre comment c'est vraiment une démonstration a posteriori synthétique. Deuxièmement, le principe qui est employé. Ah, ça c'est ici où c'est le plus délicat, ça c'est évident. Selon l'interprétation des thomistes, à partir de Occam, jusqu'au père Garrigou inclus. Parce que j'ai regardé, si vous voyez d'autres choses, vous me le direz, parce que je ne dis pas que j'ai fait l'enquête absolue. Tous interprètent les cinq voies par la causalité efficiente. C'est toujours la causalité efficiente qui est appliquée dedans. ça me gêne énormément, personnellement. Parce que nous avons vu en métaphysique que nous n'avons pas de principe propre selon la cause efficiente en métaphysique. Tout le monde est d'accord que les cinq voies sont au niveau de l'être. Tout le monde est d'accord que les cinq voies sont au niveau de l'être. C'est au niveau de la métaphysique. C'est pas au terme de la physique, c'est pas au terme de la philosophie du vivant, c'est au terme de la philosophie première. Ça, tous les bons thomistes sont d'accord. Alors, vous voyez, il y a là une espèce de contradiction à l'intérieur même de leur interprétation. Si je regarde attentivement l'analyse de la philosophie première, nous avons vu ensemble qu'il y a deux seules causalités. La causalité selon la forme, la causalité selon la fin. Il n'y en a pas trois. Il n'y a pas de principe propre de cause selon l'efficience en philosophie première. Pourquoi ? Parce que la cause efficiente est toujours saisie à partir d'un devenir. Et dans un devenir. Or, la création n'est pas un devenir. Saint Thomas le dit explicitement. Si la création n'est pas un devenir, je ne peux pas saisir l'existence de Dieu à partir de la causalité efficiente. Ça me semble très net. Donc, je ne peux la saisir qu'à partir de la cause formelle et de la cause finale. La cause formelle, non, puisqu'elle est immanente. La cause finale, oui, parce qu'elle est transcendante. Dès que je réfléchis un peu, il faut réfléchir, hein, avec l'ensemble de la philosophie de saint Thomas, tout simplement. Dès que je réfléchis un peu, je vois que seule la causalité finale peut m'amener jusqu'à Dieu. Parce que la créature dépend actuellement de l'existence de Dieu, et c'est cette dépendance actuelle que je dois voir. Je n'assiste pas à la création. Quand votre âme a été créée, hein, je ne vais pas regarder avec un microscope, même si je pouvais, je ne verrai pas, je ne verrai rien du tout, rien. Je ne peux saisir que la dépendance actuelle verticale. Nous sommes tous attirés par Dieu. Causalité finale. La cause première, c'est l'être premier, s'il a créé, attire tout ce qu'il a créé. Nous sommes attirés. C'est le bien qui attire, le bien ultime qui attire. Donc, ce n'est que par la causalité finale que notre intelligence humaine est capable de remonter jusqu'à l'être premier. À ça, il faut en avoir l'évidence. Je vous demande d'en avoir l'évidence. C'est-à-dire non pas d'y croire, mais de chercher d'être intelligent. Alors, que seul par la causalité finale, on peut remonter jusqu'à l'existence de Dieu. Si ceci est vrai, présupposé connu, si ceci est vrai, je ne peux remonter à l'existence de Dieu que par la causalité finale. Or, la causalité finale, selon une bonne métaphysique, une bonne philosophie première, implique cinq modalités que nous avons vues ce matin. C'est très bien. Cinq modalités du principe de causalité finale. Les cinq modalités de l'art me donnent les cinq modalités du principe de causalité finale. Alors, il y a donc cinq manières de remonter jusqu'à Dieu. Je pourrais dire ça, vous voyez, simplement, dès que j'ai compris qu'il y a cinq modalités de la causalité finale, en comprenant que là, je suis au niveau de la dépendance dans l'ordre métaphysique, il y a donc cinq modalités. Alors, est-ce que ça colle ? Maintenant, je vais le chercher. J'ai essayé de voir si ça colle, c'est une hypothèse de recherche, je vous dis. Donc, dans une hypothèse de recherche, j'essaie de comprendre ce qu'est la métaphysique de saint Thomas, j'essaie de comprendre ce que représente cette démonstration a posteriori, qui doit remonter sur la dépendance actuelle que j'ai par rapport à Dieu. Je vois que ça ne peut être que par la finalité. Je vois qu'il y a cinq modalités de l'acte, donc il y a cinq modalités du principe de causalité finale. Alors, est-ce que ça colle ? Je vais poser la question, essayer de comprendre. Bon, lorsqu'il s'agit de la philosophie de la nature, et c'est très important ça, parce que si ça colle, vous voyez, ça me permet de saisir vraiment l'argumentation de saint Thomas dans ce qu'est la métaphysique. Nous avons vu jusque maintenant l'aspect critique, mais il y a une métaphysique incluse dedans. Alors, il faut la redécouvrir. Elle est enfouie, elle n'est pas présente, hein. Elle n'est pas matériellement dite. Il faut la redécouvrir. Et si je crois saint Thomas nous donne les cinq voies de cette manière, il faut donc redécouvrir les cinq modalités. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Hein. Ayez toujours ça devant l'esprit. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Or, la première voie, tout ce qui est mu par un autre. Cinquième modalité, le mouvement et l'acte du corps. C'est le corps qui mue. Il mue par un autre. Tout corps dépend du mouvement, hein, parce que c'est l'acte. Et le mouvement lui-même, pris de cette manière-là, en tant qu'il est acte, il n'est pas un acte en puissance, donc il dépend d'un autre. Alors je crois que nous pouvons dire qu'ici, nous sommes en face de la cinquième modalité. On vérifiera. Philosophie du vivant. Les opérations vitales, les choses. Quatrième modalité. Philosophie première. Alors là, je crois que c'est facile à comprendre. C'est la première modalité. Je me réfère aux cinq modalités de l'acte. Hein. Plus c'est le moins, ça c'est le vrai. Donc, troisième et deuxième. C'est quand même curieux, hein. Il y a des parallélismes qu'on peut voir, hein, même si on ne les voit pas tout de suite. Il y a des parallélismes qu'on voit. Et on est en présence de ces parallélismes. Et souvent, on ne les a pas explicités du tout. Hein. Moi, je ne les ai jamais vus explicités. Alors, j'essaie de comprendre, parce que c'est un problème qui me tient très à cœur, et qui, je crois, vous tient aussi à cœur, et qui tient très à cœur à l'Église. C'est pour ça que ça me tient à mon cœur. C'est parce que ça tient très à cœur à l'Église. L'Église a affirmé toujours, jusque Vatican I, que l'intelligence humaine était capable par elle-même de remonter jusqu'à l'existence de Dieu. Je n'ai pas le droit de refuser ça. J'ai le droit de dire, je n'y comprends rien, mais j'accepte dans la foi. Ça, j'ai le droit de dire ça. J'y comprends rien, mais j'accepte dans la foi. C'est possible, puisque Dieu, l'Église dit c'est possible. Mais l'Église demande d'aller un peu plus loin. C'est d'essayer nous-mêmes de le découvrir, hein, puisqu'elle nous le dit. Alors, il ne faut pas rester uniquement dans la foi, il faut aller plus loin. Or, ça ne peut se faire que par la causalité finale et les cinq modalités. Alors, vous comprenez, toute la difficulté, c'est qu'au fond, ces cinq modalités de la causalité finale, elles sont à l'état pur seulement ici. Causalité finale à l'état pur. Comme la causalité finale est la cause des causes, la causalité finale peut s'exercer en se servant de telle ou telle autre causalité. Causalité finale plus causalité matérielle. Causalité finale plus causalité efficiente. Causalité finale plus causalité formelle. Causalité finale liée à la cause exemplaire. Voyez comment on peut saisir ça. C'est très vrai que la causalité finale est capable d'assumer toutes les causes. Et c'est normal. Oui, et ça, je ne le dis pas quand je regarde les cinq modalités. Je ne l'ai pas encore dit, du moins. On va voir au prochain cours de philosophie première si on peut le dire au niveau de la philosophie première. Ici, je le dis à partir du texte de saint Thomas. Pour essayer de comprendre le texte de saint Thomas. Enfin, aller jusqu'au bout de l'analyse du texte de saint Thomas. C'est à partir du texte de saint Thomas que je fais cette analyse. Hein, pour essayer de comprendre ce qu'il y a d'intelligent dans le texte de saint Thomas. Dire que ce texte, il est intelligent. J'en suis sûr. Je n'y comprends rien, mais les gens, il y a quelque chose dedans qu'il faut creuser. Alors j'essaie de saisir la causalité finale selon ces cinq modalités. Puisque la cause finale est cause des causes, je peux la regarder en elle-même. Je peux la regarder liée à toutes les autres causalités. Je vous l'ai dit ce matin, à propos de la découverte de la causalité finale, elle est liée à la cause matérielle. Elle est liée à la cause exemplaire, elle est liée à la cause efficiente. On a vu tout ça. Toutes les expériences que vous avez de la cause finale montrent la causalité finale liée à telle ou telle autre causalité. Et puis, je vous ai dit, il y a une causalité finale, elle est impure, en métaphysique, quand je dis là. C'est assez étonnant du reste de Marcel. Ça, c'est très intéressant, parce que ça fait comprendre comment l'exercice de la causalité finale n'est pas toujours à l'état pur. La causalité finale assume la causalité matérielle. Ce qui est mu, là, vous êtes en face de la causalité matérielle, est mu par l'autre. C'est le corps. Ce qui est la causalité finale liée à la causalité efficiente, le vivant. La causalité finale liée à la cause formelle, le possible. La causalité finale liée à la cause exemplaire, le plus et le moins. C'est pour ça que c'est beaucoup plus proche du néoplatonisme. Hein. La cause exemplaire et la causalité finale, hein, c'est très très proche l'un de l'autre. Donc, si ceci est vrai, ce que je crois, autrement je ne le dirais pas, hein, si ceci est vrai, ça me permet de comprendre la structure métaphysique des cinq voies. Nous allons voir comment nous pouvons l'utiliser après. Et ce que je cherche maintenant, c'est simplement la structure métaphysique des cinq voies. Je vois que les cinq voies partent des cinq grandes expériences que j'ai à travers l'élaboration des cinq grandes parties de la philosophie. Mais la philosophie politique est toujours un peu laissée à l'écart. Ce n'est pas une expérience majeure, première. Mais autrement, c'est très vrai, j'ai cinq grandes expériences métaphysiques. Donc j'utilise, ce n'est pas les expériences du point de départ, ce sont des expériences très élaborées. Sauf la première. C'est très beau du reste que la première est restée à l'état pur. Les autres sont très élaborées. Ça c'est sûr. Mais c'est vrai que chaque partie de la philosophie, dans son développement, me permet d'élaborer plus profondément le point de départ, la source. Donc, j'ai les cinq points de départ, j'ai les cinq modalités du principe de finalité utilisées. Alors, j'ajoute, et c'est intéressant à ajouter, le principe de non-régression à l'infini. Ce n'est pas un principe métaphysique. On n'a jamais vu en métaphysique le principe de non-régression à l'infini. C'est plutôt un aspect critique. C'est la condition sine qua non pour que la causalité marche. La causalité ne peut s'exercer que s'il y a non-régression à l'infini. Si vous faites un régression à l'infini, il n'y a plus de causalité. Donc c'est une élaboration critique. Comme la condition sine qua non pour que le principe de causalité puisse exister. Le principe de causalité ne peut exister que s'il y a non-régression à l'infini. C'est très intéressant de voir ça, parce que ça fait comprendre comment le non-régression à l'infini est resté plus longtemps dans la philosophie que la causalité. Le non-régression à l'infini, il est très ancien, le non-régression à l'infini. Il existe en Platon. Mais Platon n'a pas saisi vraiment les diverses causalités. Mais il a saisi le non-régression à l'infini. Et vous voyez que le non-régression à l'infini existe après Occam. Occam accepte le non-régression à l'infini. Alors que les causalités finales tombent. Et on comprend parce que c'est d'ordre d'un axiome. Mais comme une condition sine qua non. Une condition sine qua non, c'est un axiome. Pour que mon intelligence puisse saisir le vrai et le faux, mon intelligence doit respecter le principe de non-contradiction. C'est sûr. Tu me vois de l'intelligence, c'est un action. Et le second action, le non-régression à l'infini. S'il y a régression à l'infini, il n'y aura plus de démonstration. S'il y a régression à l'infini, il n'y a plus de science. Vous n'avez qu'à faire la contre-épreuve, vous verrez tout de suite. Si vous pouvez remonter à l'infini, il n'y a plus de démonstration. Si vous pouvez remonter à l'infini, il n'y a plus de science. Il n'y a plus rien de certain. Vous tombez dans la relativité pure. Alors, le non-régression à l'infini, je comprends très bien, saint Thomas s'en sert parce qu'il est dans une perspective critique. Dans une perspective métaphysique, on ne s'en sert pas. on laisse tomber, on se débarrasse de ça. Mais c'est une perspective critique. Dans une perspective critique, c'est nécessaire. Puis saint Thomas aboutit à l'existence, donc à poser nécessairement un être au-delà du mouvement, au-delà de l'ordre des vivants, de l'ordre selon l'ordre des causes efficientes, au-delà du possible, au-delà du plus et du moins, et au-delà de l'ordre dynamique. Il y a un être premier. Cet être premier, c'est ce que nous appelons Dieu. Saint Thomas donc conclut scientifiquement et assume dans sa conclusion scientifique l'opinion des traditions religieuses. Alors vous voyez que ça nous aide beaucoup à comprendre que la fameuse distinction qu'on a repris après saint Thomas, de Pascal, le Dieu des chrétiens et le Dieu des philosophes, ça n'a aucune signification pour saint Thomas. Et vous comprenez pourquoi. Thomas saint Thomas ne pourrait pas dire, il est nécessaire de poser un premier moment immobile que tous disent Dieu. Voilà la tradition, que tous disent Dieu. Donc les chrétiens aussi bien que les autres, tous les hommes de la tradition disent Dieu. C'est le Dieu immobile, c'est le Dieu nécessaire. Donc pour saint Thomas, le philosophe, quand il atteint l'existence d'un être premier, atteint l'existence du véritable Dieu. Donc il n'y a pas le Dieu des philosophes et le Dieu des théologiens, et le Dieu du croyant. Pascal dit ça à cause de Descartes. Alors à cause de Descartes, c'est très vrai. Par rapport à Descartes, c'est très vrai. Le Dieu Descartes n'est pas le Dieu du croyant. Pourquoi ? Nous le verrons. Quand nous verrons la démonstration de Descartes, il faut quand même voir la démonstration de Descartes. C'est quand même important. Tu vois ? C'est très important de voir comment la dégradation de la pensée thomiste avec Suarez. Occam, Suarez, Descartes. Vous voyez ? Occam, génuit, Suarez, génuit, Descartes. Là, vous avez le génuit, là, avec non pas une évolution ascendante, mais une régression descendante. N'est-ce pas ? Vous voyez comment la pensée se détruit, ne garde plus sa même tenue. Je crois que ça, c'est ce que nous pouvons dire, si je le dis rapidement, vous voyez, sur les cinq voies. Nous voyons qu'il y a là une intelligence remarquable. Le seul reproche qu'on pourrait faire à saint Thomas, c'est qu'il nous a cru très intelligents, alors il nous donne très vite. Et c'est pour ça que ça n'a pas été compris. Il aurait pu expliciter un peu plus. C'est très vrai. Quand vous regardez les cinq voies saint Thomas, faites-les lire. Hein. Ben, personne n'y comprend rien. C'est vrai. Vous-même, soyez cordial, hein, vous n'y comprenez rien du tout. On peut coller n'importe qui sur les cinq voies. C'est tellement difficile. Je vous ai dit, ma petite expérience quand j'étais étudiant, j'ai dit ça exprès au professeur. Pas exprès, parce que je voulais comprendre. Je m'étais dit, c'est sûrement très intelligent pour que saint Thomas ça. Puis non. Et au fond, aujourd'hui, on n'en veut plus. On ne veut plus les cinq voies de saint Thomas. On peut se dire, c'est complètement dépassé. Il faudrait peut-être les reprendre dans une perspective qui soit celle de saint Thomas. C'est ce que j'ai essayé avec vous. Donc, ce n'est pas des preuves métaphysiques, c'est vraiment une perspective critique théologique. Alors, je continue, si vous voulez, l'enquête que nous faisons avec saint Thomas, parce que ça vaut la peine. Il faut quand même, saint Thomas, essayer de comprendre le mieux possible. Les cinq voies, donc c'est un lieu très classique, un lieu difficile et un lieu très important. Qu'est-ce qu'il y a après ? Il y a le Compendium Theologiae. Ceci, c'est pour vous montrer que les cinq voies représentent, dans la pensée de saint Thomas, un nœud. C'est pas tout. C'est ça aussi qui est très important. Le Compendium Theologiae. Tout le monde connaît le Compendium Theologiae, qui a été fait pour Frère Réginald. Vous voyez, un petit scriptum de théologie. Rêverais-je une dit à saint Thomas, donne-moi un tout petit scriptum pour que ce soit simple, quelque chose de plus simple que le Congrès. C'est un petit texte. Au début du Compendium Theologiae, Compendium, vous voyez, c'est un petit résumé, saint Thomas expose une voie unique qui, en apparence, est une simple reprise de la première voie de la Somme. Le texte en est le suivant. C'est intéressant que dans le Compendium, pour aller plus vite, ben on va aller plus vite, on va donner qu'une seule voie. Alors, je vous lis. Concernant l'unité de l'essence divine, il faut d'abord croire que Dieu est, ce qui peut être manifesté par la raison. C'est bien ça, hein? Donc, je relis. Concernant l'unité de l'essence divine. Bon, je vous lis, c'est dans le Compendium Theologiae, chapitre 3. Dans le Compendium Theologiae, chapitre 3. Concernant l'unité de l'essence divine, il faut d'abord croire que Dieu est, que Dieu existe, ce qui peut être manifesté par la raison. Nous voyons en effet que toutes les réalités qui sont mues par d'autres, les inférieurs par les supérieurs, comme les éléments par les corps célestes. Les inférieurs sont sous la mouvance des supérieurs. Vous voyez, on explicite un tout petit peu, mais tout ce qui est mu par un autre. Or, il est impossible d'aller ainsi à l'infini. De nouveau, non régressus à l'infini. En effet, puisque tout ce qui est mu par quelque chose est comme un instrument du premier moteur, s'il n'y a pas de premier moteur, toutes les réalités qui meuvent seront des instruments. Ils sont tous dans la situation d'être un instrument, c'est-à-dire d'être mu par un autre. Or, il faut, si l'on remonte à l'infini dans les moteurs et les mus, qu'il n'y ait pas de premier moteur. Et donc, tous les moteurs et tous les mus, en nombre infini, seront des instruments. Mais il est ridicule, même pour les ignorants, d'affirmer que des instruments sont mus sans que ce soit par quelque agent principal. Qui dit instrument, dit dépendance de quelque chose qui est un agent principal. Autant dire, alors regardez la comparaison, c'est ridicule, hein? Il parle à Réginald. Réginald avait de la difficulté. Autant dire qu'un coffre ou un lit est construit par une scie ou une hache opérant sans menuisier. Évidemment, aujourd'hui, on dirait que les mécaniques, elle est automatique. Là, ça marche tout seul et qu'on peut se couper elle-même la jambe sans le vouloir. Il faut donc qu'existe un premier moteur qui soit au-dessus de tous, supremo omnium, omnibus. Et ce premier moteur, nous l'appelons Dieu. Oui, c'est la première voie que saint Thomas reprend, pour lui la plus manifeste, et elle suffit. Compendium Theologiae. Quand on doit aller rapidement, prenez la première voie, c'est plus facile, petit sentier. Mais c'est un raidillon, hein? Il est net. Il monte jusqu'à Dieu. Si vous voyez une réalité mue, elle est mue par un autre. L'autre ne peut pas être indéfiniment un instrument. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être nécessairement mu par un autre. Il faut nécessairement arriver en premier. L'existence du mouvement exige Dieu. Ça, c'est très fort, hein? Et là, on voit tout de suite, la première voie conclut. Alors, voyez, ceux qui disent hein, que la première voie ne conclut pas, qu'il faut les autres, pourquoi pas du tout. Saint Thomas l'isole dans le Compendium. Alors, c'est très vrai que les cinq, ça nous aide. Ça nous aide à mieux comprendre, mais chacune prouve. Autrement, ce ne serait pas une voie. Comme pour Aristote, je peux remonter à l'être en acte et l'être en puissance uniquement par l'expérience de celui qui dort et celui qui est éveillé. Ensuite, Regardons le commentaire de l'évangile de Saint Jean. Commentaire bien connu. Dans un style tout à fait différent de celui de la Somme, Saint Thomas, dans le prologue de son commentaire de l'évangile de Saint Jean, expose les quatre manières dont les philosophes anciens sont parvenus à la contemplation de Dieu. Et vous voyez que ce n'est pas tout à fait l'existence, c'est la contemplation de Dieu. Certains, dit-il, y sont parvenus par l'autorité de Dieu, c'est-à-dire par l'autorité du gouvernement de Dieu, par sa seigneurie. Cette voie présentée comme la plus efficace correspond à la cinquième voie de la Somme. Elle est exposée de la manière suivante. Je vous lis simplement ça pour vous montrer que nous sommes, avec le commentaire sur l'évangile de Saint Jean, nous sommes devant quelque chose de tout à fait différent. C'est très très important pour comprendre Saint Thomas. Vous voyez, pas ramener Saint Thomas uniquement à la Somme, quoi. Comprendre qu'il y a autre chose dans Saint Thomas. Il y a la Somme, c'est très très vrai, ça il y tient. Il y a le compagno. Très très simple, très direct. La petite répétition, quoi. La petite répétition qu'on peut donner, c'est pour lui. Et puis alors, il y a le commentaire de l'évangile de Saint Jean. Alors voici ce que dit Saint Thomas. Nous voyons dans la nature des réalités agir en vue d'une fin et atteindre des fins utiles et déterminées. Étant dépourvues d'intelligence, ces réalités ne peuvent se diriger elles-mêmes, à moins d'être mues et dirigé par une intelligence d'un autre. Ainsi, ce mouvement même des réalités de la nature vers une fin déterminée indique l'existence d'une réalité plus élevée qui les dirige vers leur fin et les gouverne. Et donc, puisque tout le cours de la nature procède et se dirige avec ordre vers une fin, il nous faut nécessairement reconnaître une réalité plus élevée qui dirige les autres et les gouverne comme un maître. Et cette réalité, c'est Dieu. Ça a beaucoup plus de souplesse que celle de la Somme. Ce n'est pas tout à fait le même style. D'autres philosophes, dit saint Thomas, sont parvenus à la connaissance de Dieu à partir de son éternité. Alors voici le texte. Ils virent en effet que tout dans les réalités de la nature est soumis au changement, et que plus quelque chose est noble dans les degrés des réalités, moins il est soumis au changement. Mais le Bouddha, au-delà de la noblesse même dans la réalité. Ainsi, les corps inférieurs sont capables de changer selon la substance et selon le lieu, tandis que les corps célestes, qui sont mobiles, sont immuables selon la substance. Et ne sont mus que selon le lieu. De là, on peut conclure avec évidence que le premier principe de toutes les réalités, qui est aussi le principe suprême et le plus noble, est immobile et éternel. C'est le partage du temps et de l'éternité. C'est très curieux comme raisonnement. Raisonnement très curieux, ça. Ça, alors, chose tout à fait différente de la Somme. D'autres encore, et ce sont les platoniciens, précise saint Thomas, sont parvenus à la connaissance de Dieu à partir de la dignité de Dieu lui-même. Ces philosophes considèrent en effet que tout ce qui est quelque chose par participation se ramène à ce qui est tel par son essence, comme au premier et au suprême. C'est ainsi que tout ce qui est en feu par participation se ramène au feu qui est tel par son essence. Il est donc nécessaire, puisque toutes les réalités existantes participent à l'être et sont des êtres par participation, qu'au sommet de toutes les réalités, il existe quelque chose qui soit l'être même par son essence, de telle sorte que son essence soit son être. Et cela, c'est Dieu qui est la cause absolument suffisante, suprêmement digne et parfaite de tout l'être et de tout ce qui existe participe. Oui, et que tous et deux, pardon, oui, C'est la cause qui est la cause absolument suffisante, suprêmement digne et parfaitement et parfaite de tout l'être et de tout ce qui existe participe l'être. Donc voyez comment saint Thomas là par la participation. C'est la seule fois. Jamais dans la somme il donne une voix par la participation. Et saint Thomas ici note, ça c'est les péripaties, c'est le point de vue du néoplatonisme. Les néoplatoniciens font de cette manière-là. Les platoniciens, par la participation. Enfin, d'autres philosophes sont parvenus à la connaissance de Dieu à partir de l'incompréhensibilité de la vérité. C'est curieux, ces quatre voies, vous voyez, c'est tout à fait autre chose que les cinq voies. C'est tout à fait autre chose. C'est quatre voies. Une, alors, c'est celle que, de fait, nous retrouvons, si vous voulez, de la manière la plus... Donc, par le point de vue du gouvernement divin. C'est le gouvernement divin. Donc, la quinta. Alors, c'est curieux, vous voyez, que dans le compendium, c'est la première, ici, la quinta, la cinquième voie. Deuxièmement, une seconde considération, c'est la considération qui consiste à regarder le point de vue de l'éternité. C'est aussi très néoplatonicien et augustinien, l'éternité. Hein. C'est l'éternité. Le temps appelle l'éternité. Le temps tout seul, c'est inintelligible. C'est le temps qui appelle l'éternité. Vous avez ensuite la troisième voie, alors qui est platonicienne par la participation. Et comme c'est différent, hein, c'est beaucoup plus rhétorique. Saint Thomas rassemble, c'est une vision historique. De fait, il y a quatre grandes manières par lesquelles on est remonté à Dieu. Et au fond, la somme ne représente que ça. Et alors la quatrième, celle que nous allons maintenant, c'est la quatrième, c'est un peu alors les platoniciens, c'est par le point de vue de la vérité. En effet, toute vérité que notre intelligence peut saisir est limitée. Car, selon saint Augustin, tout ce qui est connu est limité par la capacité de compréhension de celui qui connaît. Omne quod fitur, scientis comprehensione finitur. Et si tout ce qui est connu est limité, tout ce qui est connu est donc déterminé et particularisé. C'est pourquoi il est nécessaire que la vérité première et suprême, qui surpasse toute intelligence, soit incompréhensible et infinie. Et cette vérité, c'est Dieu. Donc, saint Augustin. La vérité. Voilà quatre voies. Alors, vous voyez, c'est curieux que c'est très éclairant pour la somme, vous voyez. C'est très éclairant pour la somme. On voit très bien que saint Thomas a voulu prendre uniquement dans la somme l'aspect critique, scientifique. Les autres font appel de fait à ce qui a existé. Certains sont remontés à Dieu par l'éternité, c'est-à-dire par le temps et l'éternité. Le problème de l'éternité présent dans le temps. D'autres sont remontés à Dieu par la participation, d'autres sont remontés à Dieu par le problème de la vérité.